de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Suède ne devrait pas attendre de la Turquie l'autorisation de rejoindre l'OTAN. Ministère indonésien des Affaires étrangères convoquera l'ambassadeur de Suède, poursuivra l'incendie du Coran. L'ONU et l'OIT remercient le gouvernement indonésien d'avoir promulgué la loi sur les violences sexuelles. Biden exhorte les États-Unis à interdire les armes d'assaut de queue, 3 fusillades en 2 heures. Le gouvernement municipal prépare Makassar à rejoindre le réseau des villes saines de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Bali confirme pour les 5 destinations super prioritaires d'Indonésie. Et KSP espère que la coopération Indonésie-Australie créera une stabilité régionale. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi à Ankara que la Suède ne devrait pas attendre de la Turquie l'autorisation de rejoindre l'OTAN si elle ne respecte pas les musulmans. La ferme déclaration d'Erdogan est intervenue après que Rasmus Paludan, un homme politique danois de droite, a brûlé samedi le Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, en Suède, samedi 21 janvier, avec l'autorisation du gouvernement et de la protection de la police locale. Il a souligné que personne n'a le droit et n'est libre d'insulter les croyances des musulmans ou d'autres religions et croyances. Erdogan a également mis en garde à nouveau la Suède contre le PKK, ce parti des travailleurs du Kurdistan, que la Turquie a déclaré groupe terroriste. Il a averti que si la Suède s'attendait à ce que la Turquie rejoigne l'OTAN, la Suède ne devrait pas protéger le groupe. Le ministère indonésien des Affaires étrangères convoquera l'ambassadrice de Suède en Indonésie, Marina Berk, à la suite de l'incident de l'incendie d'Al-Quran à Stockholm, en Suède, le week-end dernier. Le projet de convoquer l'ambassadrice de Suède a été confirmé par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Teuku Fejasa, contacté par Antara par SMS mardi. L'Indonésie a condamné l'incendie du Coran qui a été perpétré par un extrémiste de droite suédo-danois devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, en Suède, samedi 21 janvier. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'action était un blasphème contre le livre saint et blessait et ternissait la tolérance religieuse. Le ministère des Affaires étrangères a également souligné que la liberté d'expression devait être exercée de manière responsable. ONU et OIT remercient le gouvernement indonésien d'avoir promulgué la loi sur les violences sexuelles. Les représentants des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail, OIT, en Indonésie, apprécient les mesures prises par le gouvernement indonésien pour promulguer la loi numéro 12 de 2022 concernant les crimes de violences sexuelles ou TPKS. La chef du représentant de l'ONU en Indonésie, Valérie Julian, a déclaré mardi à Jakarta que le gouvernement indonésien avait pris de très bonnes mesures pour résoudre le problème des violences sexuelles. Selon elle, avec la promulgation de la loi numéro 12 de 2022, la prochaine tâche la plus importante est de veiller à ce que cette réglementation puisse résoudre le problème de la violence sexuelle qui se produit souvent sur les campus et autres établissements d'enseignement. Valérie Julian a en outre expliqué que les décideurs politiques dans les établissements d'enseignement et les exécutants doivent créer un monde égalitaire d'éducation sans violence sexuelle ni discrimination. La directrice de l'OIT Indonésia et Timor-Leste, Michiko Miyamoto, a également exprimé sa gratitude, qui a déclaré que la reconnaissance par le gouvernement indonésien telle qu'énoncée dans la loi était la première étape pour empêcher la violence sexuelle de se produire et de se reproduire. Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à agir rapidement pour interdire les armes d'assaut après que le pays de l'oncle Sam a été secoué par 3 fusillades de masse en moins de 2 heures. Biden l'a dit dans un communiqué publié par la Maison-Blanche mardi 24 janvier. Cité par l'agence de presse AFP, l'insistance de Biden est venue après qu'il y ait 3 fusillades de masse à différents endroits aux États-Unis en moins de 48 heures les 22 et 23 janvier. Une fois cumulé, le nombre total de victimes par balle dans diverses régions des États-Unis a atteint 20 personnes. Au moins 2 personnes ont été tuées lors de la dernière fusillade au Centre de développement pour jeunes Start Right Here des moines Iowa lundi 23 janvier. Des fusillades ont également eu lieu dans des plantations à 2 endroits à Half Moon Bay, en Californie, qui ont tué 7 personnes le lendemain du Nouvel An chinois lundi. Le gouvernement de la ville de Makassar, dans le sud de Sulawesi, prépare la ville à être incluse dans le réseau des villes saines de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. Le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, à Makassar, dans le sud de Sulawesi, a déclaré mardi que la ville de Makassar ainsi que d'autres villes d'Asie du Sud-Est étaient en cours de préparation pour être incluses dans les villes santé pour la base des autorisations et des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il a déclaré que l'un de ses engagements était de fournir des installations publiques et des installations sociales, telles que des installations sportives qui pourraient être utilisées par la communauté. De plus, le mode de vie des personnes qui contribuent également au maintien de la propriété est un élément important dans la création d'une ville santé. Pendant ce temps, Le professeur de politique de santé au FKM UNHAS, l'Université Hasanuddin, le professeur Sukri Palutturi, a déclaré qu'actuellement l'OMS pour l'Asie du Sud-Est identifie des représentants de villes saines en Indonésie. D'après ses archives, une dizaine de villes d'Indonésie et en particulier du sud de Sulawesi, Makassar, y sont incluses. Bali a été désignée deuxième destination touristique la plus populaire au monde en 2023 par le Traveler's Choice Award organisé par TripAdvisor. Cette année, Bali a réussi à gagner 2 places par rapport à la 4e place de l'année dernière et a réussi à surpasser Londres et Paris aux 3e et 4e places. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno était fier à féliciter pour cette réalisation. Dans The Weekly Brief with Sandy Uno, mardi 24 janvier à Jakarta, Sandiaga a expliqué qu'avec cette réalisation, Bali pourrait devenir une source d'alimentation pour les 5 destinations super prioritaires de l'Indonésie et espérer qu'à l'avenir, il y aura une destination super prioritaire qui serait aussi réalisée cet exploit.
Nah, di sini Bali bisa jadi pengumpan bahwa tugas Bali bukan hanya sebagai destinasi tapi juga pengumpan bagi 5 destinasi.
Et ici, Bali peut devenir un feeder, que la tâche de Bali n'est pas seulement en tant que destination, mais aussi en tant que feeder pour nos 5 destinations super prioritaires, et avec un peu de chance dans les 5 prochaines années. Un de nos destinations super prioritaires entrera dans ce top 10. Et j'espère que Bali pourra également entrer en première place dans les années à venir. L'indicateur d'évaluation des Traveler's Choice Award for Destination est basé sur la qualité et la quantité d'avis au cours de la période de novembre 2021 à octobre 2022. TripAdvisor a classé Dubaï comme la destination la plus populaire au monde en 2023. Le chef d'état-major présidentiel KSP Muldoko espère que la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Australie continuera à augmenter et pourra assurer la stabilité régionale. Le secrétaire du département australien de la défense, Greg Moriarty, à Jakarta, a déclaré mardi que si l'Indonésie est le plus grand pays de l'ASEAN, alors l'Australie est le plus grand pays du Pacifique. Il est donc important pour ces 2 pays amis d'assurer la création de la stabilité dans la région à travers diverses coopérations. Dans une déclaration écrite sur Jakarta, Muldoko a fait part de l'importance des relations bilatérales entre les 2 pays, surtout cette année car l'Indonésie occupe la présidence de l'ASEAN 2023 et vient de réussir à devenir présidente du G20. L'intensification de la coopération entre les 2 pays peut se faire à travers divers aspects tels que la politique, l'économie, la socio-culturelle, l'éducation et la défense. Muldoko est également optimiste quant à l'augmentation de la coopération économique entre les 2 pays qui s'est construite depuis 15 ans. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Les protéines animales préviennent le retard de croissance ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, chaque année, le 25 janvier est célébré comme la Journée nationale de la nutrition en Indonésie. Le but de la commémoration de la Journée nationale de la nutrition est de sensibiliser le public à l'importance d'une alimentation équilibrée pour le peuple indonésien. Cette commémoration a également pour objectif de créer une production alimentaire durable pour la communauté, des enfants aux femmes enceintes. La Journée nationale de la nutrition se concentrera sur trois principaux fardeaux, à savoir le retard de croissance, la malnutrition et l'excès de nutrition. Le thème de cette année est « Les protéines animales pour prévenir le retard de croissance ». La suppression du retard de croissance ou des troubles de la croissance et du développement des enfants dus à la malnutrition chronique et aux infections récurrentes qui se caractérisent par une taille ou une taille inférieure à la norme est devenue l'une des priorités de l'administration du président Joko Widodo. Citant la page 7k.go.id, le président a demandé aux chefs de région de réduire le taux de retard de croissance dans leurs régions respectives. C'est important étant donné que l'Indonésie connaîtra un pic du bonus démographique en 2030 jusqu'à 2035. Le bonus démographique est une situation qu'il y a une augmentation de la population d'un pays à l'âge productif qui varie de 16 ans à 65 ans. Cette augmentation a été suivie d'une diminution des taux de natalité et de mortalité. Par conséquent, le développement des ressources humaines doit continuer à être optimisé. Le président vise à réduire la prévalence du retard de croissance à moins de 14% en 2023. La réduction du taux de prévalence du retard de croissance est en effet l'un des plans nationaux de développement à moyen terme 2019-2024 du gouvernement indonésien. Mais pour que cela se produise, bien sûr, l'implication de tous les Indonésiens est nécessaire. Chaque famille doit être très préoccupée par la croissance de ses enfants. L'accomplissement de la nutrition peut être atteint à partir de ce qui est consommé. La malnutrition qui survient depuis que le bébé est dans l'utérus et dans les premiers jours après sa naissance a un effet majeur sur la croissance. Par conséquent, il est très important de préparer les femmes enceintes à être correctement nourries pendant la grossesse. L'un d'eux est la compréhension de l'importance des protéines animales. Les données du ministère de l'Agriculture montrent en effet que la consommation de protéines animales en Indonésie est encore faible par rapport à d'autres pays si les parents, en particulier les mères, comprennent l'importance des protéines animales et les appliquent dans leur alimentation quotidienne à partir de 100 jours avant la grossesse. Pendant la grossesse et après l'accouchement, elles pourront certainement prévenir le retard de croissance chez leurs enfants. Si chaque mère et future mère réalise l'importance de protéines animales, l'objectif de réduire la prévalence du retard de croissance en dessous de 14% en 2024 sera certainement atteinte. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 janvier 1924. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver ont commencé. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver ont lieu à Chamonix, en France. Les Jeux olympiques ont été ouverts par Gaston Vidal. Ses athlètes étaient au nombre de 158 de 16 pays. Les Jeux olympiques ont eu lieu du 25 janvier au 4 février 1924. La Norvège est devenue le pays avec le plus de médailles. Passons maintenant à l'événement du 25 janvier 1946, la bataille de Lincoln. Le 25 janvier 1946, le major Dan Mogot a conduit des dizaines de cadets de l'Académie militaire de Tangerang, qui était la première académie militaire indonésie, à visiter le quartier général de l'armée japonaise dans le village de Lincoln. Ils ont désarmé l'armée japonaise pour obtenir des armes. Les négociations avec l'armée japonaise sous la direction du capitaine Abe ont été menées par le major Dan Mogot, le major Wibowo et un cadet de l'Académie militaire de Tangerang. La soudaine fusillade des armes et de barrages militaires lorsque les négociations étaient en cours a donné lieu à une bataille inégale. La bataille s'est terminée par la mort de 34 cadets et 3 officiers, à savoir le major Dan Mogot, le lieutenant Subianto et le lieutenant Sutopo. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 janvier, la Journée nationale de la nutrition. La Journée nationale de la nutrition a été organisée pour commémorer le début du groupe de nutritionnistes indonésiens qui à l'époque a été marqué par la création de l'École professionnelle de nutrition de l'Indonésie le 25 janvier 1951. Depuis ce moment-là, l'éducation de la main-d'œuvre de nutrition continue de se développer rapidement dans de nombreuses universités en Indonésie. À partir de là, il était convenu que le 25 janvier était célébré comme Journée nationale de la nutrition en Indonésie. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharap gitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh, selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu, oh dari dulu. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritak bonsoir, voici Mon Indonésie et en pour le titre, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite signent 8 accords de coopération commerciale. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a assisté à la signature de 8 collaborations entre des acteurs commerciaux indonésiens et 5 acteurs commerciaux saoudiens d'une valeur contractuelle de plus de 155,7 millions de dollars américains ou environ 2,3 billions de roupies. La signature a eu lieu au bureau de la Fédération de Chambre saoudienne à Jeddah, en Arabie saoudite, lundi le 23 janvier. Dans le communiqué du ministère du Commerce, il est indiqué que la signature consistait en un contrat commercial, en accord de coopération et en protocole d'accord. Dans son allocution, le ministre Zulkifli Hasan espère que cette collaboration se poursuivra avec des transactions commerciales plus grandes et avec de plus en plus de types de marchandises. Zulkifli Hasan a rappelé que les entreprises indonésiennes exporteront un certain nombre de matières premières vers l'Arabie saoudite sous forme de nourriture, d'huile de palme raffinée blanchie, des œufs de raisin ou RBD, d'huile de cuisson, des produits à poisson et transformés, de la viande, des légumes et transformés, des fruits, de cacao, de riz, des épices, des œufs et de charbon de bois. Zulkifli Hasan a également déclaré que depuis la signature des 8 collaborations, il y avait deux protocoles d'accord spécifiquement destinés à répondre aux besoins des pèlerins de Hajj et de la Umrah. Pendant ce temps, le directeur général du développement national des exportations, Didi Sumedi, a déclaré que le ministère du Commerce continuerait de s'efforcer d'augmenter les exportations et la valeur totale des échanges, en particulier vers les pays partenaires commerciaux stratégiques et non traditionnels. L'attaché commercial Riyad Gunawan a ajouté que ce moment devrait ouvrir des opportunités pour que l'Indonésie soit de plus en plus connue du peuple saoudien. Riyad a déclaré qu'il continuerait à encourager pour plus d'une coopération avec les acteurs commerciaux saoudiens afin d'augmenter les exportations non pétrolières et gazières. Dans le communiqué du ministère du Commerce, il a également été indiqué que de janvier à novembre 2022, le commerce total entre l'Indonésie et l'Arabie saoudite a atteint 7 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 45,42% par rapport à la même période de l'année précédente qui avait atteint 4,8 milliards de dollars américains. C'est Zuritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Hey. delicious. You can hide it even when you think you're being cool.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, une rivière a généralement une couleur d'eau claire comme d'eau verte. Mais que se passe-t-il si vous voyez une rivière dont l'eau est rouge comme du sang? Oui, la rivière aux eaux rouges existe bien en Indonésie. Il est situé à la résidence de Barito, Kalimantan Central. Conformément à sa couleur, cette rivière est appelée rivière Merah ou le peuple Dayak l'appelle rivière Marak. La couleur rouge provient de la contamination des racines des zèbres de la forêt du Mont Berion. Cette forêt devient le cours supérieur du fleuve et est très dense conformément aux caractéristiques des pluies tropicales à Kalimantan. La région de la rivière Merah est toujours très belle et elle est entourée de diverses végétations vertes qui prospèrent dans les forêts de Kalimantan. Selon la population locale, même si elle est de couleur rouge, l'eau de la rivière Merah est propre à la consommation. De plus, selon le mythe, qui se développe dans la communauté locale, l'eau de la rivière Merah est également censée blanchir la peau. Un autre mythe veut que si l'on se baigne dans cette rivière, toute sa fatigue disparaîtra car l'eau est fraîche. Même ainsi, la rivière Merah est toujours sacrée par la tribu Dayak. Il y a donc un certain nombre de tabous qui doivent être évités par les visiteurs. L'un des tabous ou interdits est d'éviter de se déshabiller pour se baigner dans la rivière. Si l'on ne veut pas se baigner directement dans cette rivière rouge, on peut visiter le village touristique de Pasir Panjang, la résidence de Kota Waringin Occidental. Là, les habitants du village fabriquent un bassin de baignettes rouges dont on peut profiter. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
simple equation of love wouldn't be so hard. Hold on, I think I'm in love. Hold on, I think I'm in love. With you.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission d'Apprendre indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Saya akan ke Hotel Tamrin ».« Saya akan ke Hotel Tamrin ». En français, « Je vais à l'Hôtel Tamrin ». Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. « Saya akan ke Hotel Tamrin ».« Saya akan ke Hotel Tamrin ». Je vais à l'hôtel Tamrin. Cette conversation se déroule entre le touriste indien Dev Singh et l'officier au comptoir de réservation de taxi. Bonne écoute.
Kemana, Pak?
Saya akan ke hôtel Tamrin.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Saya akan ke Hotel Tamrin. Saya akan ke Hotel Tamrin. Je vais à l'Hotel Tamrin. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Saya akan. Saya akan. Je vais ke Hotel Tamrin. Ke Hotel Tamrin. À l'Hotel Tamrin. Saya akan ke Hotel Tamrin. Saya akan ke Hotel Tamrin. Je vais à l'Hotel Tamrin. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Saya akan ke Hotel Tamrin ». Saya akan ke Hotel Tamrin. En français, je vais à l'Hotel Tamrin. Dans ce discours, il y a la phrase que Hotel Tamrin. Que Hotel Tamrin. En français, à l'Hotel Tamrin. Pour indiquer votre destination, vous pouvez utiliser le mot que, à. Puis le nom du lieu, par exemple, que Hotel Tamrin. Que Hotel Tamrin. À l'Hotel Tamrin. En plus de l'hôtel, la destination peut être une ville, un pays ou un autre lieu. Maintenant, écoutons un autre exemple d'une autre expression pour transmettre le but. Anda akan kemana setelah dari Jakarta? Anda akan kemana setelah dari Jakarta? Où allez-vous après Jakarta? Saya akan ke Yogyakarta. Saya akan ke Yogyakarta. Je vais à Yogyakarta. Serge-Jamie, pour dire un point de destination, vous pouvez dire que sana, là-bas, ou que sini, ici. Pour un lieu, quelconque, par exemple, saya akan ke sana, saya akan ke sana. Je vais là-bas ou j'y vais. Ou saya akan ke sini, je vais ici ou j'y vais. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kemana, Pak? Saya akan ke Hotel Tamrin.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got.
de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson d'Aceh intitulée Aceh Lon Sayang. Chers amis, la chanson Aceh Lon Sayang a été composée par Anzip Lamnyong en 1955. La chanson Aceh Lon Sayang contient une expression de l'amour et peuple d'Aceh pour sa région. À Aceh, les gens se sentent heureux même si leur cœur est triste. Il a également été déclaré qu'Aceh, une terre ancestrale, avec de vastes champs et des rizières. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.